Chapitre 2. Un déjeuner désagréable. M. Stephenson avertit son ami, le colonel Hubert, qu'il ferait bien de partir. Une demande en mariage et ses suites. Ce ne fut pas seulement pour Mrs. Barnaby et pour le major Allen que le 26 avril fut un jour fécond en événements. Le colonel Hubert et son ami Stephenson se retrouvèrent comme de coutume à l'heure du déjeuner, et il eût été difficile de dire lequel des deux était le plus préoccupé et le moins disposé à faire la conversation. Pourtant, tout en étant fort contrarié de ne pas être déjà le fiancé avoué de la ravissante Agnès, Stephenson était tout rempli d'espérances anticipées, et sa tendance au silence venait bien plutôt du trop-plein de son cœur que de l'accablement de son esprit. Il n'en était pas de même pour le colonel Hubert. Rien ne saurait rendre l'impression de découragement, d'écœurement qu'il avait ressenti en s'éveillant au lendemain du concert de Mistress Peters. Qu'il en fût venu à trouver ravissante, supérieure à toutes les créatures, cette jeune fille si méprisée tout d'abord, cette nièce de la haïssable Mistress Barnaby, c'était déjà assez étrange. Mais ce n'était pas là le pire de ses malheurs, et, en vérité, les complications raffinées de sa position justifiaient en quelque sorte la conviction où il était d'être le plus infortuné des mortels. Et quoi, après avoir atteint l'âge sérieux de 37 ans, sans avoir été, sinon touché, du moins blessé, par les volées de flèches que le petit Dieu lui avait décochées à tant de reprises, n'y avait-il pas quelque chose de piquant à se sentir devenir amoureux fou d'une petite fille obscure, si jeune qu'il pourrait en être le père, et la dernière personne au monde à laquelle il eût jamais voulu s'unir? Ceci n'était-il pas cruellement malencontreux? Et ce n'était pas tout. Il avait assumé la responsabilité d'un aîné, d'un mentor, il avait sermonné son ami sur l'énorme absurdité que présenterait un pareil attachement, se fermant ainsi à jamais la possibilité de prétendre à l'amour d'Agnès, quoique tout au fond de son cœur, quelque chose lui murmura bien bas que ce ne serait peut-être pas en vain, et il se trouvait face à face avec cet ami, au cœur franc, qui, dans 5 minutes, il en était sûr, allait lui recommencer la confidence si souvent répétée de son amour, en y ajoutant l'intention de faire sa demande, qui, d'après ce qu'il avait vu la veille au soir, serait refusé, le colonel en était certain. Dans quel misérable dilemme se trouvait-il placé? Lui faudrait-il voir l'homme pour lequel il prétendait avoir de l'amitié aller en dépit de 1000 obstacles, offrir son nom et sa main à une femme qui le refuserait? Ou pouvait-il essayer d'empêcher cette démarche, alors que son cœur lui montrait comme seul obstacle à son bonheur à lui les prétentions de Frédéric? Le colonel Hubert, assis, remuait son café dans le plus maussade des silences, ne redoutant qu'une chose, voir Frédéric desserrer les lèvres. Il ne se passa pas grand temps avant que cette crainte se réalisât. « Eh bien, Hubert, c'est encore à faire. Mais si ce soir je vais me mettre au lit sans avoir reçu d'elle la promesse d'être ma femme, il n'y aura pas eu de ma faute. Sa tante est un monstre, une horreur, oui, je le veux bien. Mais Agnès est un ange, et cet ange sera à moi. » La physionomie du colonel s'assombrissait de plus en plus, mais toujours en silence, il continuait à remuer son café. « Pourquoi me traiter ainsi, Hubert ? » dit le jeune homme avec reproche. « Il y a dans ce silence affecté une supériorité orgueilleuse, 1000 fois plus mortifiante que tout ce que vous pourriez dire. » Faites-moi honte encore une fois de la bassesse avec laquelle je tolère une Barnaby. Dépeignez-moi la contrariété de mon frère, l'indignation de mes sœurs. Mais au nom du ciel, parlez-moi. Mon bien cher Frédéric, que voulez-vous que je vous dise? Répondit Hubert avec émotion. Si mes paroles avaient le pouvoir de vous faire fuir à leur même, je vous parlerais jusqu'à mon dernier souffle, car sur ma parole, Frédéric, je suis plus que certain que cette affaire ne vous amènera que déception et chagrin. Oui, je reconnais que la jeune personne elle-même est digne de tous les amours, de toutes les admirations et de tous les respects. Je le crois sincèrement, je le crois, j'en suis sûr. Mais... » Et ici, le colonel Hubert s'arrêta court, avala son café et ne dit plus rien. « Ceci n'est pas tolérable, monsieur, » dit Frédéric, très vexé. « Continuez, s'il vous plaît. Ne vous arrêtez pas au milieu d'insinuations sous forme mille fois plus injurieuse, plus insultante, que tout ce que votre éloquence pourrait vous donner la force d'articuler. » Frédéric, vous vous méprenez à mon égard. Je n'insinue rien. Je crois dans le fond de mon âme qu'Agnès Willoughby est l'être le plus pur qui soit sur terre. Mais cela n'empêche pas que la recherche de sa main ne soit pour vous la chose la plus malheureuse. Oubliez-la, Frédéric. Voyagez, mon cher ami. Quittez-la. Votre avenir n'en sera que plus heureux. Colonel Hubert, la différence d'âge seule peut excuser le conseil dénaturé que vous me donnez si froidement. Vous n'êtes plus jeune, monsieur, et vous ne pouvez juger les choses comme celui qui l'est encore. Permettez-moi de vous dire que notre mutuel agrément ne saurait que gagner à nous éloigner l'un de l'autre. C'est pour moi que vous avez prolongé votre séjour ici, je vous rends votre liberté. D'ailleurs, les relations suivies que je vais très probablement avoir avec cette Mrs. Barnabé, que vous détestez tant, nous sépareraient forcément. Ne soyez donc point surpris si je vous dis que je vous verrai quitter Clifton avec plaisir. Généreux Hubert. Une lutte de quelques instants lui est bientôt décidée. Il résolut de partir immédiatement. Sans même répondre à Frédéric, il sonna, commanda des chevaux de poste à la minute et ordonna à son domestique de préparer sa valise dans le plus bref délai. Une fois ses ordres donnés, le colonel, essayant de raffermir sa voix, répondit en ces termes au langage si rude qu'on venait de lui tenir. Frédéric, si vous aviez pris le temps de réfléchir un peu plus, vous n'auriez pas parlé comme vous venez de le faire, car ce que vous avez dit était dur et injuste. Je vous le répète, si j'en avais le pouvoir, je voudrais vous séparer de cette fille charmante avant que vous ne lui ayez demandé de vous épouser, c'est mon avis formel. Croyez-moi, vous souffririez moins si vous vous décidiez à quitter Clifton tout de suite. Suivez-vous mon conseil? Partons-nous ensemble? Non, colonel Hubert, je ne veux pas. Partez, je vous l'ai dit, je crois, avec une franchise suffisante. Soyez sage, vous aussi, et n'essayez pas de me traîner à votre suite. Ce furent, à peu de choses près, les dernières paroles qu'ils échangèrent. Frédéric Stephenson quitta la maison pour s'en aller errer au dehors, jusqu'à l'heure où il pouvait faire sa visite à Rodney Place, et avant que 2 heures se fussent écoulées, le colonel Hubert roulait en toute hâte vers Bristol, d'où il devait se diriger sur Londres. Mrs. Barnabé et le bon monsieur Peters avaient à peine quitté la maison à la recherche du voleur que Marie demandait à Agnès l'explication de sa mine défaite. Elle était persuadée que la visite annoncée de Frédéric n'était pas sans avoir un but, et pour rien au monde, elle ne voulait qu'Agnès eût l'air à moitié morte. Elle insista pour lui faire respirer des sels, lui fit baigner les yeux dans de l'eau fraîche, lui proposant soit de s'étendre sur le sofa, soit de venir faire une promenade sur les dunes en attendant le goûter. C'était généralement l'heure où M. Stephenson faisait ses visites du matin. Agnès se soumit très docilement à toutes ses prescriptions, à l'exception de celle du sofa. Elle s'y refusa même avec véhémence et se décida pour les dunes, seule chose qui put peut-être dissiper son mal de tête. Et comme elles étaient en route vers ce vaste entrepôt d'air frais, elles rencontrèrent M. Stephenson. La rencontre parut déplaire extrêmement à Agnès. Elle ne recherchait que du calme, et c'était ce que Frédéric ne lui accordait jamais. Toutefois, ne pouvant s'enfuir, elle continua à marcher, jusqu'au moment où, passant la barrière, elle s'aperçut que Marie et Élisabeth étaient restées assez loin en arrière. Mais le tête-à-tête ne lui causa aucun embarras. Puisqu'il fallait subir une conversation, peu lui importait que ce fût avec tel ou tel causeur. Elle s'arrêta pourtant, d'abord par politesse pour ses amis, ensuite par une sorte d'instinct des convenances, en disant « Je ne savais pas avoir marché si vite. Je crois, monsieur Stephenson, que nous devrions retourner au-devant d'elle. » Oserais-je vous supplier, mademoiselle Willoughby, dit le jeune homme, de rester encore quelques moments seul avec moi? Ce n'est pas nous qui avons marché vite, ce sont vos amis qui ont marché exprès lentement, car elles, du moins, ont deviné mon secret. Et serait-il possible que vous, Agnès, vous ne l'eussiez pas deviné comme elle? Serait-il possible qu'il me fallût encore vous apprendre avec quelle ardeur je vous aime? Il n'y a pas de jeune fille, entendant pour la première fois un aveu comme celui-là, qui n'en soit fortement émue, fortement troublée, mais dans la position où se trouvait Agnès, que de choses contribuaient à rendre encore 10 fois plus grand ce trouble et cette émotion. D'abord, ce qui est bien rare en pareil cas, cette déclaration était totalement inattendue. Ensuite, elle lui était on ne peut plus désagréable. Et enfin, elle lui inspirait une vive terreur, la crainte qu'une proposition aussi flatteuse ne sourît à ses amis, ou ne convainc à son horrible tante, ou encore ne lui occasionna l'ennui d'avoir à supporter des sollicitations, sollicitations qui, à ses yeux, étaient à elle seule une profanation du sentiment auquel elle s'était vouée en secret pour toujours. Elle eût alors voulu donner au jeune homme une réponse catégorique, mais elle se sentait incapable de prononcer un mot. « Ne me parlerez-vous donc pas, Agnès ? » reprit Frédéric après une pause pénible. « Ne voulez-vous pas me dire ce que je puis espérer en retour de l'amour le plus vrai qui ait jamais embrassé le cœur d'un homme ? Ne voulez-vous pas même me regarder ?» Agnès s'était arrêtée. Elle demeurait immobile, comme quelqu'un qui cherche à reprendre haleine. Elle sentait qu'il avait le droit d'attendre d'elle une réponse. Elle comprenait que tôt ou tard, il lui faudrait en venir là. Aussi, faisant un effort aussi violent peut-être que celui qui procure au héros une gloire immortelle, elle dit, tout en gardant ses yeux attachés sur le sol, « Monsieur Stephenson, je suis vraiment bien désolée que vous m'aimiez, car pour moi, il m'est tout à fait impossible de vous aimer. » « Grand Dieu, Miss Willoughby, est-ce là votre réponse? Savez-vous bien que ces paroles que vous prononcez là, si légèrement, si froidement, me rendent misérable pour la vie? Agnès, pouvez-vous dire une chose pareille sans être émue de pitié? Oh, je vous en prie, monsieur Stephenson, ne parlez pas ainsi, cela me fait tant de peine. » Alors, vous ne direz plus ces paroles si cruelles? Vous me laisserez croire que le temps, la fidélité, un profond amour pourront plaider en ma faveur. Oh, dites-moi que c'est bien ainsi. » Mais je ne le puis pas, monsieur Stephenson, dit Agnès avec une vive énergie. Voilà ce qui serait mal agir, ce serait de vous dire cela, puisque ce n'est pas vrai. Avec votre jeunesse et votre heureux caractère, monsieur Stephenson, je ne puis croire que vous vous chagriniez bien longtemps, et j'espère que vous ne m'en reparlerez jamais plus. Et maintenant, si vous voulez bien, je crois que nous ferions mieux de revenir auprès de Marie. » Après avoir dit cela, elle se retourna et commença à marcher rapidement dans la direction de Clifton. « Est-il donc possible ? » dit le jeune homme en proie à une violente émotion. « Si jeune, si douce en apparence, et si dure, si déterminée ? Oh, Agnès, pourquoi m'avoir laissé concevoir d'aussi grandes espérances ? N'avez-vous donc pas vu mon amour, mon adoration ? N'avez-vous donc pas compris que tout mon bonheur sur cette terre dépendait de vous ? Non, non, non ! S'écria Agnès en grand émoi. « Je ne l'ai jamais su, je ne l'ai jamais deviné. Comment aurais-je été deviner quelque chose d'aussi invraisemblable ?»« D'aussi invraisemblable ? Vous moquez-vous de moi, Agnès ?»« Invraisemblable ! Demandez à vos amis, demandez à Miss Peters si elle trouve cela invraisemblable. » »« Je ne crois pas qu'une pensée aussi étrange soit jamais entrée dans la tête de Marie, monsieur Stephenson. » Car, autrement, elle m'aurait mise en garde contre elle. En garde contre elle, Miss Willoughby, y a-t-il donc quelque chose dans ma position, dans ma fortune ou dans ma réputation qui impose à vos amis la nécessité de vous mettre en garde contre moi? En vérité, vous me tenez un langage étrange. Eh bien alors, ne me faites plus parler, monsieur Stephenson. Il est bien probable que je m'exprime mal, car je suis si contrariée, si désolé qu'en vérité je sais à peine ce que je dis. Mais je vous en prie, pardonnez-moi et ne soyez plus malheureux à cause de moi. » Agnès, vous en aimez un autre, s'écria tout à coup Frédéric en devenant cramoisi. Une indifférence aussi profonde, une insensibilité aussi dure, ne peuvent s'expliquer autrement. À son tour, Agnès rougit violemment et, éclatant en larmes, elle dit d'un ton sévère « Voici ce que personne au monde n'a le droit de me dire, et jamais, quant à moi, je ne vous permettrai de me le répéter. » Et se mettant à marcher avec rapidité, sans répondre un seul mot, soit aux remontrances, soit aux plaidoiries passionnées de M. Stephenson, elle allait atteindre les demoiselles Peters, quand Frédéric, posant sa main sur son bras, lui dit en la retenant « Agnès, si vous acceptez mon amour, si vous consentez à devenir ma femme, je vous délivrerai de la puissance de votre tante, je vous placerai dans une maison splendide, je vous entourerai d'amis d'un esprit aussi pur, aussi élégant que le vôtre. N'est-ce donc rien ? Répondez-moi un mot, un seul mot. Votre refus de ma main et de mon affection est-il définitif ?»«
Oui, monsieur, » dit Agnès tout en pleurant, car cette accusation d'en aimer un autre résonnait encore à son oreille et faisait gonfler son cœur à croire qu'il allait éclater.
« Ne me parlez pas avec colère, Agnès, » dit-il avec douceur. « Ce que j'ai ressenti pour vous ne mérite pas un pareil retour.
« je le sais, » reprit Agnès en pleurant encore plus fort. « J'ai le plus grand tort et je suis bien malheureuse. Je vous en prie, monsieur Stephenson, pardonnez-moi. »
Et elle lui tendit la main. Il prit cette main et pendant un instant, il la garda entre les siennes. « Malheureuse, Agnès, dit-il, pourquoi seriez-vous malheureuse ? Oh, si mon amour, si mon dévouement pouvaient conjurer ce malheur ! Mais vous ne croyez pas en moi. Vous ne voulez pas me laisser consacrer ma vie à vous rendre heureuse. »«
Rien ne peut me rendre heureuse, monsieur Stephenson. Je vous en prie, ne parlons plus de cela, car bien vrai, je ne puis pas être votre femme. »
Brusquement, il porta sa main à ses lèvres et la laissa retomber. « Puisse le ciel vous bénir et vous faire heureuse à votre manière, quelle qu'elle puisse être » s'écria-t-il. Et, tournant sur lui-même, il la quitta, atteignit le bord de la descente qui conduit à la rivière et se mit à suivre la pente comme un homme qui ne voit ni n'entend rien. Il fut bien vite hors de vue. Ceci était une catastrophe absolument inattendue pour Mademoiselle Peters. Elle arrivait fort anxieuse à la rencontre de la désolée Agnès.
« Au nom du ciel, qu'avez-vous pu lui dire, ma chère, pour l'avoir envoyée de cette façon ? Vous ne vous êtes pas querellée, j'espère ?»
Cette question embarrassa extrêmement Agnès et la mit au supplice, car Marie n'était pas seule. À elle, peut-être, aurait-elle pu conter la terrible aventure qui venait de lui arriver, mais devant Élisabeth, c'était impossible. Elle pressa le bras de Marie en lui disant tout bas
« Oh, ne me faites pas de questions en ce moment, ma chère amie, je ne saurais y répondre. Attendez que nous soyons de retour à la maison. »
Mais attendre, dans un tel état d'inquiétude, dépassait la mesure de philosophie de Marie. Aussi, s'arrêtant tout à coup, elle dit
« Élisabeth, continuez en avant, tout doucement, pour quelques minutes. Voulez-vous ? J'ai quelque chose de particulier à dire à Agnès. »
Et la bonne Élisabeth continua à marcher, sans même retourner la tête pour les regarder.
« Qu'est-il arrivé ? Que vous a-t-il dit ? Et que lui avez-vous répondu ? » lui demanda coup sur coup son impatiente amie. « Oh, Marie, il m'a rendue bien malheureuse, mais tout cela est si étrange. Je ne veux rien vous cacher, Marie, mais si vous le laissez savoir à ma tante, j'en mourrai. Il m'a offert sa main, Marie. »
« Évidemment, Agnès, je sais cela, mais quel rapport cela a-t-il avec cette manière de se sauver, si étrange, si insensée ? Et quel rapport avec vos larmes et votre air si bouleversé ? Pourquoi s'est-il enfui comme s'il avait peur de nous, et quand devez-vous le revoir ?»«
Je ne le reverrai jamais, Marie, » dit gravement Agnès. Alors vous vous êtes querellé. Grand Dieu, quelle folie! Il vous aura dit, bien sûr, quelque chose de peu poli sur votre tante. Mais tout considéré, Agnès, n'auriez-vous pas dû lui pardonner?
Hélas, Marie, il n'a rien dit de désagréable sur ma tante, et je suis sûre qu'il n'avait en aucune façon l'intention d'être impoli, bien qu'il m'ait cruellement blessé, cruellement offensé, mais sans doute sans le vouloir.
Cruellement blessé, cruellement offensé, vous, Agnès, permettez-moi de vous demander tout de suite ce qu'il vous a dit.
Je vous dirai tout, à l'exception d'une seule chose. Mais celle-là, je vous l'avoue, je préfère ne pas la répéter. D'ailleurs, cela n'a aucune importance. C'est absolument étranger à la raison pour laquelle il s'est enfui.
Et cette raison, quelle est-elle?
Oh, une raison bien ridicule, vraiment. Je suis sûre que vous allez en rire. C'est parce que je lui ai répondu que je ne pouvais pas l'épouser.
Vous lui avez dit cela, Agnès? Vous lui avez dit que vous ne pouviez l'épouser?
Certainement, je le lui ai dit. Je n'ai nulle envie de l'épouser. Oh, mais vrai, je ne voudrais pas l'épouser pour tout au monde.
Et voici donc comment tout ceci aura fini, s'écria Mlle Peters, profondément vexée.
Je me suis bien trompée à votre égard, Agnès. J'ai cru que vous souffriez cruellement de votre dépendance envers Mistress Barnaby.
Ah, pouvez-vous en douter, Marie?
Et comment n'en douterais-je pas? Comment, vous venez de refuser l'offre de la main d'un jeune homme bien né, noblement apparenté, possesseur d'une fortune splendide, charmant de sa personne et orné de plus des meilleures et plus aimables qualités, chose si rare en ce monde. Et vous voulez qu'après un acte pareil, je puisse croire que vous souffrez réellement de votre situation présente?
Tout ce que vous dites est très vrai et je n'en saurais rien nier. Mais que faire, Marie, quand on ne peut pas arriver à aimer quelqu'un? L'auriez-vous épousé, vous?
Vous parlez comme une enfant. Pourquoi ne pourriez-vous pas l'aimer? Un jeune homme qui a des manières si agréables, de si excellentes qualités, et une fortune comme bien des gens de la noblesse n'en ont pas.
Mais je ne pense pas que vous supposiez que sa richesse eût pu me le faire aimer, Marie.
Vous êtes une petite sotte, Agnès. Et je ne sais quoi supposer. Peut-être le trouvez-vous trop âgé pour vous, peut-être ne consentirez-vous à devenir amoureuse que lorsque vous aurez rencontré un Adonis à peu près de votre âge.
C'est vous, maintenant, qui dites des absurdités, reprit Agnès avec un peu de chaleur.
Je suis si loin de le trouver trop âgé pour moi que je pense...
Non, je ne pense pas, je veux dire qu'il me semble, et tout le monde doit être de cet avis, que les gens bien plus âgés que nous doivent être beaucoup...
Mais ceci n'a aucun rapport, Marie. Je ne voudrais pas épouser M. Stephenson quand même. N'en parlons donc plus, je vous en prie. Seulement, par pitié, faites que ma tante n'en sache rien.
Elle n'en saura rien par ma faute, Agnès, reprit Mlle Peters. Mais il m'est impossible de vous comprendre.
Ah, vous m'avez bien trompée. Cependant, je n'ai nullement le droit de m'en fâcher. Aussi, comme vous le dites, nous n'en reparlerons plus. Venez, rejoignons Elisabeth. Il ne faut pas lui laisser faire toute seule tout le chemin d'ici à Clifton.
Et c'est ainsi que se termina cette affaire matrimoniale qui, au début, avait donné de si belles espérances et pour laquelle la jolie Marie Peters s'était livrée à tant de méditations. Ce fut pour elle une leçon profitable. Jamais plus on ne la vit se mêler d'affaires de cette sorte.